Vous écoutez, on lit pour vous.
Donner rend notre cerveau heureux, un texte de Sarah Champagne, paru le 15 décembre 2025 dans la presse. La générosité rend heureux, selon des recherches sur le cerveau menées par des psychologues et des neurologues. La simple idée de donner a un effet puissant sur le cerveau, explique Philippe Tobler, neuropsychologue à l'Université de Zurich, en Suisse, qui a publié la seule étude d'imagerie médicale portant sur le don en 2017 dans la revue Nature Communications. L'impact sur le mécanisme neuronal de la récompense est encore plus grand que si on reçoit de l'argent. Monsieur Tobler a annoncé à 50 cobayes qu'il recevrait 25 francs suisses, 43 dollars canadiens, chaque semaine pendant un mois. La moitié devait planifier de donner cette somme et l'autre moitié devait prévoir une dépense personnelle. Chaque semaine, on leur demandait quels étaient leurs plans précis. Pour le groupe du don, il fallait dire à qui ils allaient faire cadeau des 25 francs. Des lectures d'imagerie médicale de leur cerveau par résonance magnétique fonctionnelle, fMRI, étaient faites chaque semaine, donc 5 fois pendant la durée de l'étude. Chez les gens qui donnaient à autrui, il y avait plus de communication entre les régions du cerveau associées à la générosité et au bonheur, en concluait Philippe Tobler. Cette région du cerveau comporte beaucoup de neurones de la dopamine impliqués dans le sentiment de récompense et d'autres qui jouent un rôle dans la capacité à se mettre à la place d'autrui, à comprendre comment les autres se sentent. Laboratoire de l'entraide et du bonheur. Le bonheur lié au don est présent dès la petite enfance, selon les recherches de Lara Aknin, une psychologue de l'Université Simon Fraser, SFU, en Colombie-Britannique, qui étudie le don depuis 20 ans. Nous avons fait une étude démontrant que les gens dépensent davantage pour autrui que pour eux-mêmes, dit-elle. Ensuite, nous avons montré que la tendance à la générosité existe dès l'âge de 2 ans. Il semble que le don soit un mécanisme pro-social qui encourage la sociabilité parce qu'elle mène au bonheur. Madame Aknin fait le lien avec sa propre enfance. Je me souviens que je passais des journées à rêvasser à ce que je pourrais faire de gentil pour les autres, confie-t-elle. Au fil des années, on s'est même rendu compte que le plaisir de donner à autrui ne dépend pas du fait qu'on connaît ou non la personne. Donner à un étranger semble aussi bénéfique pour notre bonheur. Son groupe à SFU s'appelle Laboratoire de l'entraide et du bonheur. Tanya McGillivray, une autre psychologue de SFU, confirme l'universalité du bonheur dérivant d'un don. Elle étudie une société moins occidentalisée dans une île reculée de Vanuatu, dans le Pacifique. C'est une société où le concept de propriété est très différent de ce qu'il est au Canada ou en Occident, décrit-elle. Les enfants apprennent plus tard à distinguer ce qui est à eux et à autrui. Et même à l'âge adulte, il est possible de rentrer dans une maison et de prendre ce dont on a besoin. Alors le don n'a pas le même sens que chez nous. L'existence de rituels de don dans de telles sociétés montre bien qu'il s'agit d'une expérience humaine primordiale, fondamentale pour la vie en société, poursuit Madame McGillivray. Ce rite du don dans les sociétés pré-industrielles a été souvent décrit par les anthropologues. Pour la psychologue, la persistance de cette tradition pourrait venir de rites servant à renforcer les liens sociaux remontant à l'aube de l'humanité. Quelles sont les prochaines étapes dans la recherche sur la neuropsychologie du don? Pour Philippe Tobler, il s'agit de déterminer si l'effet bénéfique de donner diminue quand on en est conscient. Si on donne, en sachant que ça nous fait du bien, dit-il, dans le but de se sentir mieux, est-ce que l'effet bénéfique du don est détruit? Connecter, être aimé, être utile. Chris Barrington Lay, un économiste de l'Université McGill qui a collaboré avec Lara Aknin pour certaines études sur le don, estime qu'on ne sait pas encore quel mécanisme neuropsychologique explique le mieux ce qui nous rend heureux quand on donne. Est-ce parce que ça nous connecte aux autres, donc que ça renforce notre sentiment de sociabilité? Ou alors que ça nous donne l'impression d'être aimable, donc d'être aimé par les autres? Ou bien ça nous fait sentir adéquat, utile, énumère-t-il. Madame Aknin veut, de son côté, étudier si les dons d'argent, les cadeaux ou le bénévolat ont le même effet bénéfique, ou si certaines modalités de la générosité apportent davantage de bonheur. Et certains critiques des études sur le don estiment qu'on ne tient pas assez compte du sentiment de réciprocité. Est-ce qu'on donne parce qu'on s'attend à recevoir par la suite, particulièrement de la part de gens qu'on connaît? Il faudra mieux délimiter l'impact de ce calcul, note-t-elle. Empathie ou calcul? Les travaux de Robert Valerin, directeur du laboratoire de recherche sur le comportement social à l'UQAM, permettent déjà de répondre en partie à cette question. Les gens qui font quelque chose pour en retirer quelque chose, par calcul, ont des conséquences psychologiques moins positives, affirme-t-il. La tension entre les altruismes empathiques et stratégiques pourrait être inhérente au don, selon Sarah Palermo, une psychologue de l'Université de Turin qui étudie le cerveau charitable et est directrice scientifique de Philanthropolis, l'Institut national de philanthropie en Italie. Le don empathique nous fait sentir meilleur, dit Sarah Palermo, nous donne l'impression que l'on comprend l'autre, alors que le don stratégique est lié à la réputation. Je crois que ces deux tendances sont toujours en équilibre dynamique. Si on transpose cette tension à la philanthropie, cela veut dire que la philanthropie d'entreprise ou des riches, ou alors le capitalisme social, qui tient compte des intérêts de la société et des employés, découle à la fois du désir d'être utile à la société et de celui d'être bien vu, d'avoir une bonne réputation, note Madame Palermo. Même s'il y a un côté stratégique à la philanthropie, cela n'annule pas les bienfaits du don. On fait rarement les choses pour une seule raison, conclut-elle. C'était « Donner rend notre cerveau heureux », un texte de Sarah Champagne, paru le 15 décembre 2025 dans la presse.
Pénaliser les pauvres pour ne pas pénaliser les riches. Réplique. Un texte de Émilie Lorrain-Dansereau, paru le 16 décembre 2025 dans La Presse. Qu'est-ce qu'une réplique? La presse peut accorder un droit de réplique à une personne ou un groupe visé par un article, une chronique, une lettre ou un éditorial, afin de permettre à cette partie de présenter sa perspective sur les faits exposés dans le ou les textes en question. Émilie Lorrain-Dansereau, conseillère budgétaire à la Sève du Nord de Montréal. Au nom des consommateurs moins nantis, l'autrice réplique à la chronique « La bombe à retardement des tarifs d'électricité » de Francis Vaille, publiée le 10 décembre 2025. Dans son texte, Francis Vaille nous parle d'une étude que l'Institut du Québec vient de publier dans laquelle on tente de démontrer pourquoi une hausse des tarifs d'électricité est inévitable et même souhaitable dans le contexte de la décarbonation et de la lutte contre le déficit. Le gouvernement ne devrait pas augmenter les impôts et pénaliser le travail. En revanche, hausser les tarifs d'électricité pour freiner la surconsommation est essentiel en cette période de transition énergétique, nous dit-il. Voilà une affirmation qui nous semble bien déconnectée de la réalité et particulièrement choquante pour les milliers de personnes qui n'arrivent pas à payer leurs factures d'électricité au Québec. Rappelons que 16 % de la population est en situation de précarité énergétique. Autrement dit, un ménage sur 7 n'arrive pas à payer sa facture d'électricité, doit choisir entre manger ou se chauffer ou n'arrive pas à maintenir une température confortable dans son logement. En 2024, Hydro-Québec a conclu 293 000 ententes de paiement avec sa clientèle résidentielle et procédé à 47 000 interruptions de service. Combien de personnes de plus devront être privés d'électricité avant qu'on prenne le problème au sérieux. Des économistes loin du terrain. En tant qu'organisme de défense des droits des consommateurs, ce n'est pas la première fois que l'on entend ce mythe voulant que les clients résidentiels ne paient pas assez. C'est malheureusement basé sur une logique erronée. C'est pourquoi il nous apparaît nécessaire de rappeler quelques faits. Le principe d'interfinancement fait partie du pacte social de 1962. Il a été instauré, entre autres, pour maintenir les tarifs d'un service essentiel à un niveau abordable. L'interfinancement permet à tous les Québécois et Québécoises de payer des tarifs relativement abordables, peu importe l'endroit où ils et elles habitent et le coût d'acheminement de l'électricité. L'élimination complète de l'interfinancement entraînerait, selon l'Institut du Québec, une augmentation des tarifs d'électricité de 21 %. C'est énorme. Revenir sur ce contrat qui unit le gouvernement, Hydro-Québec et la population québécoise ne peut pas se faire sans un large débat public. Quand les tarifs s'éloignent des coûts réels. Depuis de nombreuses années, on paie dans nos tarifs pour des dépenses qui n'ont rien à voir avec les coûts de production, de transport et de distribution. Depuis 2014, le bloc patrimonial est indexé sans aucune raison. À de nombreuses reprises, le gouvernement s'est servi des tarifs d'électricité pour financer ses programmes de développement économique, ce qui a profité aux industries. Par exemple, Hydro-Québec a été obligé d'acheter à gros prix de l'électricité à des producteurs privés d'énergie éolienne et de biomasse. Selon l'Institut de recherche en économie contemporaine, IREC, cette priorité accordée au développement de la filière éolienne par des investisseurs privés a coûté 6,09 milliards de dollars aux consommateurs. Les industries sont aussi grandement responsables de la hausse de la demande d'électricité pour laquelle Hydro-Québec devra faire des investissements importants. Pourquoi serait-ce aux clients résidentiels de payer pour ça? Quand survie s'oppose à profit. Consommer de l'énergie dans son logement, ce n'est pas un choix. C'est essentiel pour répondre à ses besoins de base, manger, se chauffer, se laver, etc., être en bonne santé et vivre dans la dignité. Dans un contexte de crise du logement, avec des hausses de loyers records et d'inflation galopante, il est important de protéger les consommateurs d'un éventuel choc tarifaire. D'autant plus qu'un nombre important de ménages ne gaspille pas l'électricité comme le laisse entendre l'article. Si ces ménages consomment beaucoup d'électricité, c'est parce qu'ils vivent dans des logements mal isolés sur lesquels ils n'ont aucun pouvoir d'agir. Le gouvernement du Québec ne doit pas se servir des tarifs d'électricité, un service essentiel, pour financer la transition énergétique ou compenser le déficit. Déficit causé, entre autres, par les baisses d'impôts successives des dernières années. Les tarifs d'électricité devraient servir à payer la production, le transport et la distribution de l'hydroélectricité destinée aux Québécois et Québécoises. toute autre utilisation de la tarification de l'électricité équivaut à une taxation qui est par sa nature même régressive et qui affecte donc davantage les ménages à faible revenu qui sont pourtant ceux qui ont le moins contribué à la crise climatique. C'est pourquoi il est plus juste d'augmenter les impôts que les tarifs d'électricité. La bombe à retardement des tarifs d'électricité dont nous parle Francis Weil a été fabriquée par le gouvernement qui a adopté sous bâillon un projet de loi donnant les coups des franches à Hydro-Québec pour réaliser son plan d'action pharaonique. Le gouvernement aurait peut-être dû écouter les experts qui l'ont mis en garde à de nombreuses reprises. Augmenter encore plus les tarifs d'électricité aura des conséquences terribles pour les ménages à faible revenu qui n'ont plus de marge de manœuvre, et ce, depuis longtemps. La réponse de Francis Weil. Il va de soi que les moins nantis devraient obtenir une compensation advenant une augmentation majeure des tarifs d'électricité, par exemple par une majoration du crédit d'impôt pour solidarité. Les autres clients résidentiels devraient toutefois payer le juste prix pour l'énergie qu'ils consomment, parfois pour bien d'autres choses que des besoins primaires. Le spa en hiver, le chalet, les maisons spacieuses, etc. Il va de soi aussi qu'il faut décarboner notre économie, et pour ce faire, Hydro-Québec fait le bon choix d'augmenter sa production. Une telle hausse sera toutefois accompagnée d'une majoration des tarifs que les clients résidentiels devront assumer comme les autres. Sans cette hausse cohérente des tarifs, non seulement les objectifs d'économie d'énergie seront inatteignables, mais le gouvernement devra aussi compenser autrement le manque à gagner, par exemple, en haussant les recettes fiscales, déjà au 9e rang parmi les plus élevés au monde. C'était « Pénaliser les pauvres pour ne pas pénaliser les riches », réplique, un texte de Émilie Lorrain-Dansereau, paru le 16 décembre 2025 dans La Presse.
Oreille sur deux, le coût du silence. Une lettre publiée le 10 décembre 2025 sur le site de TVA Nouvelles. Dans un Québec qui vieillit, un enjeu de santé publique silencieux, mais bien réel, prend rapidement place : la perte auditive. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, un individu sur quatre en souffrira d'ici 2050. Déjà, près de 10 % de la population générale et 30 % des adultes de plus de 60 ans sont atteints. Chaque jour, des milliers de personnes vivent avec une perte auditive, mais toutes ne sont pas égales devant l'accès aux soins. Le programme actuel d'aide auditive de la RAMQ exclut une partie importante de la population, laissant de nombreux Québécois sans la prise en charge dont ils auraient besoin pour maintenir leur santé, leur autonomie et leurs liens sociaux. Pour une réforme au bénéfice de la santé auditive collective, lourde conséquence. Cette iniquité touche principalement les personnes retraitées, les personnes sans emploi et celles inscrites à un programme d'études non reconnu par le ministère. Pour ces groupes, la RAMQ ne rembourse qu'une prothèse sur deux en cas de surdité bilatérale. Et si la personne est malentendante d'une seule oreille, aucune prothèse n'est couverte. Seuls les enfants et les étudiants inscrits à un programme reconnu peuvent obtenir un remboursement pour un appareil en cas de surdité unilatérale. Les conséquences sont lourdes. Les personnes malentendantes renoncent à s'équiper ou retardent leur appareillage avec des effets réels sur leur qualité de vie, leur santé et leur sécurité. Lorsqu'elle n'est pas corrigée adéquatement, la perte auditive, même à une seule oreille, peut accentuer les risques de détérioration cognitive, d'anxiété, d'isolement social ou de chute. Au fil du temps, elle prive les personnes concernées de repères essentiels, complique leurs échanges quotidiens et peut, trop souvent, compromettre leur autonomie. La majorité des pertes auditives touchent les deux oreilles. Pourtant, plusieurs personnes vulnérables ne reçoivent qu'une compensation pour une seule prothèse. Concrètement, cela signifie qu'un jeune adulte vivant avec une trisomie 21, inscrit dans un programme d'adaptation scolaire qui ne mène pas à un diplôme officiel, n'y a pas droit. Toutefois, si cette personne a obtenu un appareillage auditif avant l'âge de 19 ans, elle bénéficiera d'un droit acquis qui lui permettra d'avoir des appareils auditifs couverts pour les deux oreilles toute sa vie. Un autre exemple, une jeune femme aux prises avec une maladie, momentanément retirée du marché du travail ou bénéficiant de l'aide sociale, se voit, elle aussi, exclue de cette couverture essentielle. Même une personne qui approche la retraite doit parfois s'appareiller en urgence avant de quitter son emploi, elle perd son admissibilité une fois retraitée. Obstacle. En limitant la couverture, on laisse entendre qu'entendre à moitié devrait suffire. Pourtant, les conséquences d'une perte auditive sont beaucoup plus vastes qu'on ne le croit. Elles touchent non seulement la communication, mais aussi la participation au marché du travail. Les personnes malentendantes rencontrent davantage d'obstacles pour garder un emploi ou réintégrer la vie professionnelle, ce qui a des effets directs sur leur autonomie financière et leur qualité de vie. Les impacts sur la santé et l'ensemble du réseau sont tout aussi importants. La perte auditive est aujourd'hui reconnue comme un facteur de risque modifiable de démence et une atteinte plus sévère augmente clairement ce risque. Elle est aussi liée à une hausse des chutes, chez les aînés particulièrement, alors qu'un appareillage adapté peut contribuer à réduire ces incidents et d'améliorer considérablement le quotidien. L'appareillage auditif devient ainsi un véritable levier. Il agit sur des dimensions souvent sous-estimées et contribue à prévenir des complications lourdes, tant sociales que cliniques, tout en réduisant la pression sur le système de santé. C'est précisément là que la situation actuelle pose problème. En limitant la compensation, on se retrouve avec une mesure qui crée non seulement une inégalité d'accès aux soins, mais qui en réduit aussi l'efficacité. Et cela vient contredire l'objectif même du programme d'aide auditive du Québec. Soutenir la santé auditive, faciliter la communication et favoriser la participation sociale des personnes atteintes. Pour que le système réponde réellement à la réalité clinique et protège la santé auditive de tous, le gouvernement du Québec se doit d'élargir la couverture de la RAMQ afin de garantir un accès réel à une correction auditive. Autrement dit, chaque oreille présentant une perte auditive doit pouvoir être appareillée. Cette bonification du programme d'aide auditive permettrait enfin de compenser l'achat, la réparation et le remplacement d'une prothèse pour chaque oreille nécessitant une correction, réduisant ainsi les conséquences néfastes et permanentes d'une surdité non traitée, qu'elle soit physique, sociale ou économique. Parce que chaque mot, chaque voix mérite d'être entendu. La santé auditive n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Son co-signataire de la lettre, Claudine Brassard, directrice générale de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées de Roberval. Marie-Philippe Rodrigue, présidente, et Marie-Ève Beaulieu, vice-présidente de l'Association québécoise des orthophonistes et audiologistes. David Gélina, président de l'Ordre des audioprothésistes du Québec. Paul-André Galland, président de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Jeanne Choquette, présidente d'Audition Québec. Claire Moussel, directrice générale, Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs. Lucie Nau, directrice générale de Réseau québécois pour l'inclusion sociale des personnes sourdes et malentendantes. Yves Bouchard, président de la FADOC. Nathalie Mercier, directrice générale de la Société Alzheimer au Richelieu. Paul-René Roy, président de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics. C'était « Une oreille sur deux, le coût du silence ». Une lettre publiée le 10 décembre 2025 sur le site de TVA Nouvelles.